enjeux planétaires contemporains, terminale, spécialité. De la plante sauvage à la plante domestiquée, chapitre 1, l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs. Les plantes à fleurs, ou angiospermes, ancrées au sol, sont dans l'incapacité de se mouvoir. Elles ont pourtant une formidable aptitude à s'adapter et représentent aujourd'hui plus de 90% de la biodiversité des plantes terrestres. C'est en étudiant leur organisation fonctionnelle et leur faculté d'autotrophie que l'on comprend mieux leur efficacité. De la germination, de la graine, jusqu'à la floraison, elles doivent aussi assurer leur croissance et leur reproduction. C'est entre autres la reproduction qui a fait le succès évolutif des angiospermes. En remarquant des caractéristiques propres à certaines plantes, l'homme a alors commencé à en sélectionner pour ses propres besoins, tout au long de son histoire. La plante sauvage, sélectionnée, est alors devenue domestiquée et a permis à notre espèce de coloniser à son tour différents milieux. Problème ? Comment la plante est-elle fonctionnelle tout en restant fixée ? Comment la matière organique est-elle produite et quel est son devenir ? Comment la plante assure sa reproduction ? Quels ont été les moyens de la domestication de la plante et quelle en a été la conséquence sur leur patrimoine génétique ? Quelle est la part de la plante qui nous a fait évoluer ? Grand 1, organisation générale d'une plante à fleurs. La plante représente une partie aérienne et une partie dans le sol. C'est donc avec ces deux milieux qu'elle aura besoin de gérer ses échanges. L'appareil végétatif chez les végétaux représente l'ensemble des organes permettant sa nutrition et assurant sa croissance. Il y a donc un dessin à connaître par cœur, c'est celui de l'anatomie d'une plante que vous devez savoir compléter et en même temps savoir refaire. Même si la diversité des végétaux est grande, les composantes de l'appareil végétatif restent toujours. Un appareil racinaire ancrant le végétal dans le sol, mais permettant aussi d'absorber l'eau et les sels minéraux. Les racines peuvent être principales ou secondaires. Elles peuvent être aussi pivotantes pour mieux rentrer dans le sol. Ce sont des racines principales, plus grosses que les secondaires, et qui s'enfoncent relativement profondément. Ou elles peuvent être fasciculées, c'est-à-dire que les racines ont à peu près toutes le même diamètre et s'étalent très bien en surface, permettant ainsi un bon ancrage. L'appareil aérien est avec ou sans tige, et donc les feuilles permettent de capter les rayons solaires, de réaliser la photosynthèse et les échanges gazeux. C'est un organe important aussi pour la régulation en eau. La tige permet à la plante de gagner en hauteur et en surface des champs. Vous avez quelques définitions à connaître. La première, c'est phytomère. Alors, qu'est-ce qu'un phytomère ? C'est l'unité de base d'organisation de la plante, partie de la tige. Elle comporte un nœud et un entre-nœud. Le nœud, c'est la partie du phytomère portant les feuilles, le bourgeon ou les fleurs. L'entre-nœud, c'est la zone du phytomère ne produisant aucun organe, mais doué de croissance. Deux catégories de plantes peuvent être néanmoins distinguées en fonction de leur tige. Les plantes de petite taille sont dites herbacées. Elles ont soit pas de tige, soit une tige souple, chlorophyllienne et peu ramifiée. À noter que si la tige est chlorophyllienne, elle est douée de photosynthèse. Elles sont d'une très grande variété, elles peuvent être annuelles, bisannuelles, vivaces. L'annuelle, elle vit un an, et c'est ses graines qui lui permettent de se reproduire et d'assurer en fait sa descendance. Les bisannuelles ne fleurissent que la deuxième année, et enfin les vivaces fleurissent chaque année. Et toutes ces plantes se sont adaptées à différents milieux. Les plantes ligneuses sont généralement de grande taille, avec une tige renforcée et à croissance annuelle. Elles sont non chlorophylliennes, mais fortement ramifiées. C'est ce qu'on appelle les arbustes ou les arbres. La tige n'est pas douée de photosynthèse, elle est marron, elle est faite de bois et d'une écorce. Par leur ancrage au sol, les plantes à fleurs doivent répondre à différentes contraintes pour pouvoir répondre à un environnement variable et surtout s'adapter au mieux aux aléas des précipitations, de la nutrition hydrique et minérale efficace, bref, être parées à toutes les conditions. Elles doivent pouvoir prélever des gaz et en rejeter d'autres sans se déshydrater. Elles doivent pouvoir entrer en compétition avec d'autres espèces et optimiser leur photosynthèse. Elles doivent aussi pouvoir passer les mauvaises saisons, c'est-à-dire s'adapter aux conditions extrêmes. Et enfin, pouvoir se défendre contre d'éventuels agresseurs, comme les herbivores par exemple. Elles doivent pouvoir aussi se reproduire et se disséminer efficacement, c'est-à-dire assurer leur survie. Remarque, dans ce chapitre, il ne s'agit pas de voir toutes les contraintes, car elles peuvent être multiples et on peut avoir différentes adaptations en fonction des végétaux, mais surtout de bien comprendre l'organisation générale de la famille des plantes à fleurs et ce qui en a fait son succès dans l'évolution, puisqu'aujourd'hui elle représente la majorité des végétaux. Il s'agit donc pour tous ces végétaux d'optimiser les échanges à cause de leur immobilité. Grand 2. Augmenter les surfaces d'échange. Vous aurez donc compris qu'après avoir fait l'activité des calculs de surface d'échange, la première réponse des végétaux pour augmenter leurs chances de survie, alors qu'ils sont fixés, est bien d'augmenter ces surfaces d'échange. Et cela se passe au niveau racinaire comme au niveau aérien. Donc grand A, au niveau de l'appareil racinaire. L'appareil racinaire d'une plante est généralement très développé. Il est constitué d'une multitude de racines, qu'on appelle primaires et secondaires, constituant un réseau interagissant avec le sol, et le tout est appelé rhizosphère. Beaucoup de racines possèdent une zone pilifère, c'est-à-dire une zone comportant de nombreuses cellules épidermiques, différenciées, très étirées, qualifié de poils absorbants, qui augmente considérablement la zone d'échange avec le sol afin de pouvoir absorber l'eau et les ions minéraux de façon optimale. Mais une très grande majorité des plantes à fleurs s'associe aussi avec des champignons, ce qui constitue une symbiose importante du monde vivant. Ces derniers peuvent entourer les racines et les cellules, ou même y pénétrer et créer des prolongements dans le sol. Il constitue une interface d'échange entre le sol et la plante et augmente considérablement les possibilités d'échange et notamment d'absorption de l'eau. On les appelle des mycorhizes. La seule partie visible de ces mycorhizes en surface sont les champignons, ce qui correspond à leur organe reproducteur. À noter que les champignons eux-mêmes sont très efficaces dans l'absorption de l'eau environnante, même atmosphérique. Alors définissons tout de suite ce qu'est une symbiose. Une symbiose, c'est l'association biologique durable et réciproquement profitable entre deux organismes vivants. Si jamais je me focalise sur la mycorhize, c'est bien une association symbiotique entre un champignon et les parties souterraines d'un végétal supérieur, entre autres des plantes à fleurs. Alors développons un peu. Les mycorhizes qui entourent les cellules végétales et pénètrent dans le sol sont appelées des ectomycorhizes. Ecto extérieur. Le champignon a la capacité de capter l'humidité environnante, ce qui le rend très efficace dans la captation de l'eau. Les mycorhizes peuvent aussi pénétrer dans les cellules et alimenter directement la vacuole en eau. On parle alors d'endomycorhizes, endo à l'intérieur. De plus, on a pu montrer que ces filaments mycorhiziens constituent des réseaux entre plantes d'une même espèce et même entre certaines espèces différentes collaboratrices. Ce réseau permet des échanges nutritifs, certes, mais mieux que cela, cela permet aussi de se défendre plus efficacement face à des nuisibles en alertant les plantes voisines. Par exemple, je vous renvoie à l'acacia et le coudou. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une connaissance à incorporer dans nos modèles agricoles. L'agroforesterie, par exemple, car les associations de plantes, arbres et champignons permettent une lutte naturelle contre les prédateurs et les nuisibles, ce qui augmente alors le rendement des cultures, sans aucun ajout de pesticides. Grand B, au niveau de l'appareil aérien. L'organe aérien, spécialisé dans la captation de l'énergie lumineuse et dans les échanges gazeux, est par excellence la feuille. Même si les tiges herbacées en sont aussi capables. Si les échanges gazeux sont essentiels pour permettre à la feuille de réaliser la photosynthèse, ils le sont tout autant pour permettre à l'eau de monter dans la feuille, c'est-à-dire à la sève brute d'arriver dans la feuille. Attention, le schéma d'une coupe transversale d'une feuille de dicotylédone est à savoir par cœur. Les surfaces d'échange sont considérables, surtout si on additionne les feuilles portées par un végétal. Chaque feuille ménage une multitude de trous, ou ostioles, au niveau de leur épiderme, inférieur chez les dicotylédones et inférieur et supérieur chez les monocotylédones. Ce qui permet d'accéder à une chambre sous-stomatique et qui permet un échange direct avec les cellules du parenchyme foliaire. Ce parenchyme foliaire est organisé en deux parenchymes distincts. D'abord le parenchyme palissadique, qui est supérieur chez les dicotylédones, et dont les cellules sont ordonnées en rang très serré, de telle façon à capter un maximum de lumière. Cette forme d'agencement, d'ailleurs, donne une allure de palissade, d'où son nom. Ces cellules sont ultra chargées en chloroplastes. D'ailleurs, chaque chloroplaste est optimisé lui-même pour capter aussi un maximum de lumière. Par exemple, le nombre de thylakoïdes et le nombre d'antennes collectrices des photons, en fait. Ils ont aussi la capacité de s'orienter en fonction de l'incidence des rayons lumineux. On appelle ça la cyclose. Le parenchyme lacuneux, quant à lui, ménage des trous, ou des méas, qui permettent la circulation de l'air et augmentent la possibilité des échanges gazeux des cellules chlorophylliennes. La cuticule qui recouvre l'épiderme des feuilles est quant à lui imperméable au gaz, car constituée de cire et de lipides. Le fait que les échanges gazeux ne se réalisent que dans les chambres stomatiques permet de réguler aussi les pertes, ce qui protège par exemple de la déshydratation des végétaux. Si les conditions sont défavorables, les ostioles des stomates alors se ferment. Si l'ostiole est ouvert, les gaz pénètrent au niveau d'un parenchyme lacuneux dont les lacunes permettent la circulation de ces gaz profondément dans la feuille. L'ouverture de l'ostiole est par conséquent étroitement contrôlée par des cellules que l'on appelle cellules stomatiques ou stomates. Ce sont d'ailleurs les seules cellules chlorophylliennes de l'épiderme. Cette ouverture est commandée par la teneur en eau des cellules stomatiques elles-mêmes. Ainsi, si les cellules stomatiques sont déshydratées, l'ostiole se ferme. Si les cellules stomatiques, au contraire, sont hydratées et possèdent une belle vacuole, alors dans ce cas-là, les stomates s'ouvrent et laissent l'ostiole ouvert. Grand 3, assurer la circulation des sèves. Comme l'absorption de l'eau s'effectue au niveau racinaire et que la photosynthèse et l'absorption des gaz s'effectuent au niveau foliaire, il est nécessaire de mettre en place un double système de conduction entre ces organes. Alors un système de conduction d'abord ascendant, apportant l'eau et les ions minéraux au niveau des feuilles et permettant ainsi le bon déroulement de la photosynthèse. La structure conduisant cette sève, que l'on appelle sève brute, est appelée xylème et est constituée de cellules lignifiées qui se colorent au carmin vert diode par une coloration verte. Alors il y a aussi un système de conduction descendant permettant la distribution des sucres et produits dérivés fabriqués au niveau des feuilles vers les tissus non chlorophylliens. La sève sucrée, c'est de l'eau et du sucre, est alors appelée sève élaborée et circule au travers de vaisseaux du phloème qui sont non lignifiés. Cette fois-ci, la coloration au carmin vert diode donne une coloration rose. La sève élaborée transporte des substances dissoutes dans l'eau. Des sels minéraux, d'accord, comme des sulfates, du potassium, des phosphates, du magnésium, mais des métabolites organites sous forme glucidique. Alors, la forme glucidique essentielle, c'est le saccharose. Le saccharose est constitué de fructose et de glucose, Et ce fructose et ce glucose sont issus, en fait, de la photosynthèse. Et puis protéiques, des acides aminés et même des hormones. Grand 4, le développement des plantes. La plante grandit de façon harmonieuse, en mettant en place un phytomère, l'un après l'autre. La formation d'un phytomère comprend, au niveau caulinaire, c'est-à-dire de la tige, l'apparition d'une ou plusieurs feuilles, du ou des bourgeons axillaires et de l'élongation de la tige. Chaque étape correspond à un fonctionnement particulier de l'apex. L'apex, c'est l'extrémité de la tige ou de la racine. Au niveau racinaire, le fonctionnement est assez similaire. La croissance harmonieuse nécessite d'abord une multiplication cellulaire au niveau de zones très particulières que l'on appelle des méristèmes. Les méristèmes peuvent être racinaires, caulinaires, c'est-à-dire de la tige, axillaires, c'est-à-dire des bourgeons latéraux, ou floraux si jamais il s'agit d'activer une fleur. Puis chaque cellule peut alors se spécialiser en s'allongeant et en se différenciant. Les tissus se différencient de plus en plus en donnant des organes. Alors, quelques définitions. Caulinaire, c'est relatif à la tige. Apex, c'est la pointe d'un organe, c'est-à-dire la zone apicale. Le bourgeon axillaire, c'est le bourgeon situé à l'aisselle d'une feuille. Un méristème, c'est un tissu végétal constitué de cellules douées de division cellulaire, c'est-à-dire de mitose. Les cellules méristématiques se divisent pour donner des cellules qui se différencient ensuite en cellules spécialisées, constituant alors les autres tissus végétaux, voire des organes. L'organogénèse, c'est bien la différenciation et le développement de certains tissus en organes. La mérèse. C'est un mode de croissance par multiplication du nombre de cellules, c'est-à-dire par mitose successive chez les végétaux. Et c'est donc les méristèmes qui s'occupent de cette mérèse. L'oxèse. C'est un mode de croissance par une augmentation de la longueur des cellules, mais aussi parfois de la largeur. Ainsi reprenons. Chez les plantes, de façon générale, la multiplication cellulaire est gouvernée par les méristèmes. Lorsqu'une cellule se différencie, elle s'arrête de se multiplier, s'allonge et se spécialise. Ces deux phénomènes sont sous la dépendance de balances hormonales. On distingue donc la mérèse, qui est l'action de se multiplier par division cellulaire, et gouvernée par les méristèmes. Et l'oxèse, qui est l'action de s'allonger, de se différencier, de se spécialiser pour intégrer finalement un tissu et donc un organe. Ces mécanismes sont sous le contrôle d'hormones différents. Grand A, fonctionnement des méristèmes. À l'apex de la tige, la multiplication des cellules méristématiques, méristème apical caulinaire par exemple, permet la mise en place de nouveaux nœuds avec des ébauches foliaires et d'entre-nœuds. Ceci permet une croissance terminale de la tige. Quant à l'apex racinaire, la multiplication des cellules méristématiques, du méristème apical racinaire, entraîne aussi une croissance terminale, mais sans conduction de nouveaux organes, la racine étant toujours sans feuilles. La plante gagne en diamètre grâce à un méristème médulaire. Les méristèmes des bourgeons axillaires ou latéraux peuvent être activés selon l'influence plus ou moins faible du méristème apical. Ainsi, si on coupe l'apex, les bourgeons axillaires sont activés. Lors de la période de floraison, les méristèmes floraux s'activent en percevant certains paramètres de l'environnement, comme la longueur d'onde lumineuse, la température, etc. Grand B, le contrôle par les hormones. La croissance harmonieuse du végétal doit à la fois alterner des divisions cellulaires au niveau des méristèmes, mais également des allongements cellulaires ciblés aux endroits de différenciation cellulaire. Ces deux mécanismes sont contrôlés par une balance entre deux hormones antagonistes, l'une favorisant des divisions cellulaires, et l'autre plutôt une différenciation cellulaire et une élongation. Les cytokinines, à ne pas confondre avec cytokines, sont des phytohormones produites par les racines et véhiculées par la sève qui cible notamment les parties aériennes en stimulant des divisions cellulaires des bourgeons et en favorisant les mécanismes de mérèse. Ces hormones sont le plus souvent véhiculées par la sève brute. Les phytohormones de la famille des auxines, dont l'auxine ou acide indole 3-acétique ou encore appelé AIA, à l'inverse, sont produites par les méristèmes apicaux, collinaires et vont agir au niveau racinaire. Les auxines favorisent l'élongation cellulaire ou les mécanismes d'auxèse. D'ailleurs, auxèse provient du mot auxine et la rhizogenèse. Alors, qu'est-ce qu'une phytohormone ? Une phytohormone, c'est une hormone d'origine végétale. D'ailleurs, le préfixe phyto ou suffixe phyte vient du grec qui signifie plante. Ce sont donc des molécules produites et sécrétées à très faible concentration par des cellules végétales et allant agir à distance, donc véhiculées par les vaisseaux conducteurs des plantes sur des cellules cibles qui possèdent des récepteurs à ces molécules. Ces dernières vont réagir en modifiant leur fonctionnement de façon adaptée. En terminale spécialité, les hormones des plantes qui sont étudiées sont les cytokinines et les auxines. Ainsi, en fonction de la balance hormonale, en auxine ou en cytokinine, l'organogénèse de la plante sera modulée. Par exemple, une grande dose de cytokinine et une toute petite dose d'auxine donnera le bourgeon principal. A l'inverse, si on prend une grande dose d'auxine et une petite dose de cytokinine, on pourra avoir une rhizogenèse ou alors soit principale, soit secondaire. Maintenant, essayons de nous approcher et de voir l'effet sur l'élongation cellulaire. Donc grand C, exemple de l'élongation cellulaire. La contrainte qu'il faut lever dans l'élongation de la cellule végétale est bien la rigidité de la paroi végétale qui constitue le squelette des végétaux et qui est un bloquant pour un étirement cellulaire. C'est pourquoi le processus d'allongement de la cellule végétale se déroule toujours en deux temps ou deux étapes. D'abord, la vacuole augmente en volume et exerce une pression sur la paroi, entraînant alors une élasticité et une plasticité de la paroi. A noter que quand la vacuole augmente, quand la surface de vacuole augmente, la cellule commence à se différencier. Cette plasticité donc est liée à la réception ici d'auxines qui permet une acidification de la paroi, ce qui va entraîner une rupture des liaisons hydrogènes entre les constitutions de la paroi, c'est-à-dire de l'hémicellulose, de la cellulose et des pectines, et les câbles de cellulose vont alors coulisser les uns par rapport aux autres, permettant à la paroi de s'étirer. Ainsi, la paroi s'étire, mais elle s'affine aussi, c'est-à-dire qu'elle devient un peu moins épaisse, un peu moins fournie en molécules. Il faut donc de nouveau produire des constituants pariétaux. Ce temps est plus long et nécessite donc l'activation de gènes particuliers, comme celui de la cellulose synthétase. Une fois que les nouveaux constituants pariétaux sont en place, la cellule a fini de grandir et donc de s'allonger. Petit 4. L'influence de l'environnement. La réponse des plantes à fleurs, à la pesanteur, diffère de leur réponse à la lumière. Tout dépend de l'organe considéré. La tige a un phototropisme positif, c'est-à-dire qu'elle se dirige vers la lumière alors qu'elle a un géotropisme négatif, c'est-à-dire qu'elle va en sens inverse de l'effet de la gravité. A l'inverse, la racine a un phototropisme négatif, elle fuit la lumière, alors qu'elle a un géotropisme positif, elle est attirée par la gravité. La courbure prise par la plante est liée à une croissance différenciée d'un côté et donc à une élongation cellulaire. Cela signifie que cette courbure est bien entendu liée à la pression de l'environnement. Mais cette pression joue sur la concentration en fait en hormones, dont l'auxine, qui permet une élongation cellulaire que d'un côté du végétal, entraînant alors sa courbure. En effet, si vous regardez une plante et que vous éclairez de côté, cette dernière va tenter de se courber vers la lumière. Autrement dit, la courbure extérieure sera plus longue que la courbure intérieure. Il y aura donc une élongation cellulaire de la courbure extérieur. Et ceci est sous l'influence des hormones et notamment de l'auxine. Alors encore quelques définitions. Tropisme, ça vient du grec tropos, qui veut dire tourner. Réaction d'orientation, donc liée à des contraintes environnementales. Le phototropisme, c'est l'orientation des végétaux sous l'influence de la lumière. Ça a été découvert par Darwin, et dont le déterminisme a été révélé réellement par Wendt en 1926. Quant à l'hormone, elle a été découverte par Cobb en 1931. Le géotropisme ou gravitropisme, c'est l'orientation des végétaux sous l'influence de la pesanteur. Alors, en complément, voyons les mécanismes de détection des tropismes. À propos du phototropisme, les cellules possèdent des photorécepteurs, c'est-à-dire des protéines appelées phototropines, qui captent la lumière bleue. Deux gènes ont été identifiés, mais l'un est plus impliqué dans le phototropisme, c'est le FOT1, alors que l'autre permet plus une redistribution des chloroplastes et qui est appelé FOT2, P-H-O-T. Les phototropines permettraient entre autres d'optimiser la photosynthèse pour adapter les besoins de la construction pariétale, comme la production de cellulose. L'auxine joue un rôle stimulateur de l'élongation cellulaire. À propos du géotropisme ou gravitropisme, les cellules centrales de la coiffe sont fortement différenciées et sont qualifiées de statolithes. D'ailleurs, lithe en grec, L-I-T-H-E, ça signifie pierre. Leur noyau est situé dans la moitié supérieure de la cellule, tandis que le réticulum endoplasmique se trouve au pôle opposé de la cellule. Ces cellules ne possèdent pas de vacuole central, mais des amyloplastes volumineux, organismes spécialisés dans le stockage d'amidon, dont la densité est plus élevée que celle du cytoplasme. Dans le cas d'une cellule verticale, les amyloplastes sont sédimentés sur le côté opposé au noyau. Si l'on change l'orientation de la racine, les amyloplastes alors se déplacent pour se déposer plutôt au fond de la cellule, sur le côté le plus bas de celle-ci, dans sa nouvelle orientation. Par contre, la position des autres organites n'est pas modifiée, au moins à court et à moyen terme. Cependant, il ne s'agira pas du seul mécanisme de perception, et d'autres sont encore à rechercher ou à l'étude. Une stimulation gravitropique s'accompagne d'une redistribution de l'auxine au sein de la racine. Si la racine est placée horizontalement, la concentration d'auxine augmente dans la partie inférieure de celle-ci, tandis qu'au contraire, elle diminue dans la partie supérieure. Cette fois-ci, l'auxine apparaîtrait comme un inhibiteur de l'élongation cellulaire, contrairement aux côtés de la tige, où là, la concentration en auxine permet une stimulation de l'élongation cellulaire. Alors comment une même hormone peut être inhibitrice ou excitatrice de l'élongation cellulaire? Eh bien, c'est uniquement une histoire de concentration. Et cette concentration va différer soit au niveau de la tige, soit au niveau de la racine. Ainsi, au niveau de la racine, la concentration en auxine inhibe finalement l'élongation cellulaire. Alors qu'au niveau de la tige, sa concentration excite l'élongation, ou plutôt active l'élongation cellulaire. Conclusion. Les angiospermes, bien que très diversifiés au niveau de leur appareil aérien, et de leur appareil racinaire, montrent des similitudes de fonctionnement. Selon les contraintes du milieu, certains organes vont développer des tissus ou des caractéristiques leur permettant de mieux s'adapter et de coloniser différents milieux. L'augmentation des surfaces d'absorption au niveau des feuilles ou par la rhizosphère, ainsi que la symbiose mycorhizienne, sont des exemples à la vie fixée. Les échanges entre les parties aériennes et les parties souterraines sont assurés par un système ascendant de sève brute, le xylème, et par un système descendant de sève élaborée, le phloème. Les méristèmes assurent une croissance continue des plantes par mitose, tandis que plus loin, les cellules s'allongent, se différencient, constituent des tissus, puis finalement des organes. Ces mécanismes sont assurés par une balance hormonale qui est contrôlé par deux types d'hormones différentes, les cytokines ou les oxytocines.